devant vous. Donc je serai seul à transmettre cette méditation, mais le corps de cette prédication n'est pas de moi. Il vient de Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople durant la deuxième partie du IVe siècle. Il ne pouvait pas être là ce matin. Jean Chrysostome a été reconnu comme l'un des pères de l'Église. Et j'ai repris ses prédications. Rassurez-vous, je les ai adaptées aussi à notre contexte, comme il me semblait bon de le faire. Ce sera plutôt un dialogue à deux voix que d'une lecture des prédications de Jean Chrysostome. Avec lui, je vous proposerai de relire un petit bout de l'histoire de Noël. Un petit bout de l'histoire de Noël en mettant l'accent sur Joseph. Et je vous invite à lire en Matthieu 1, les versets 18 à 25. Où nous lisons « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Quand on lit ce texte, on pourrait croire que Joseph subit plus l'histoire de Noël qu'il en est acteur. C'est comme s'il était un figurant entre les mains d'un metteur en scène. On ne lui a pas tellement demandé son avis. Alors c'est en partie vrai. Mais Jean Chrysostome va nous aider à comprendre toute la foi de ce personnage. Au début, Joseph n'a effectivement pas son mot à dire pour la conception de Jésus. On ne lui demande pas son avis. C'est entre Dieu et Marie. On lit simplement que Marie se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Le texte ici est sobre. Il dit les choses simplement. Le texte n'invite pas à spéculer au-delà de ce qu'il dit. Il n'invite pas à nous demander « Mais comment finalement l'Esprit a-t-il pu accomplir cela dans Marie ?» Afin de ne pas troubler le lecteur, l'auteur a indiqué qui était à l'origine du miracle, le Saint-Esprit. Il s'abstient ensuite de tout commentaire. C'est comme si l'auteur disait « Finalement, je ne sais rien d'autre que ce qui s'est passé là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. » Ni l'ange Gabriel, ni Matthieu l'évangéliste n'ont pu en dire plus, mais seulement que l'engendrement du Fils venait de l'Esprit. Toujours est-il que voilà Marie enceinte. Et c'est sur cette révélation que Joseph entre en scène. Au verset 19, on nous dit Joseph, on l'introduit, Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Quel lâche! Vous ne trouvez pas? Facile à dire. Abandonner Marie, à ce moment-là, quelle idée! On peut penser que Joseph est en train de fuir la situation. Mais notre ami Chrysostome nous dit, il nous pose la question, « Ne voyez-vous pas ici un homme d'une retenue exceptionnelle, libéré de toute jalousie ?» Alors que j'ai lu ça, j'ai dû en lire deux fois, je dis non, mais enfin, il est plutôt en train de prendre la fuite. Mais on a un homme ici d'une retenue exceptionnelle, libéré de toute jalousie. Cet homme ne voulait pas causer de la peine à Marie, même de la façon la plus légère. Il faut savoir que dans cette situation, où Marie est enceinte, mais pas de lui, il y a deux options qui s'offrent à lui. Soit garder Marie dans sa maison, ça veut dire que c'est une transgression avec la loi, soit la dénoncer pour qu'elle soit jugée, ce qui amènerait Marie à être livrée à la mort. Il y a ces deux options possibles. Mais Joseph ne veut rien faire de tel. Il décide de se conduire selon une règle plus élevée que la loi. Il lui propose de rompre secrètement, plutôt que d'appliquer la loi. C'est la meilleure issue possible pour Marie. En faisant cela, Joseph ne désobéit pas à la loi en la gardant chez elle, et il n'expose pas Marie au déshonneur, et certainement à la lapidation. Dès son entrée en scène, l'attitude de Joseph est exemplaire. Mais le pauvre Joseph, il mérite quand même quelques explications. Alors heureusement, les choses se font assez vite. C'est au verset 20 que l'ange vient lui parler. Et l'ange lui explique tout ce qui est en train de se tramer. L'ange a rassuré Joseph. Et Jean Chrysostome nous dit « Écoutez et émerveillez-vous de la sagesse de ces paroles. Joseph, descendant de David, n'ait pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. N'aie pas peur de prendre Marie pour femme. N'aie pas peur. Joseph avait craint d'offenser Dieu en gardant une femme adultère chez lui. Il avait craint de désobéir à la loi et d'attirer toutes les conséquences que cela impliquait vis-à-vis de Dieu de désobéir à la loi. Il y avait un dilemme énorme dans la tête de Joseph. Il avait envie de garder Marie chez elle, mais en même temps, il n'avait pas envie de s'exposer aux conséquences de la loi. Et là, l'ange vient lui rassurer, il lui dit « N'aie pas peur. Tu n'as pas offensé Dieu. » S'il avait rompu secrètement, c'était pour protéger Marie, d'une part, mais pour ne pas désobéir à la loi. On a un homme qui est intègre. Et l'ange vient lui dire, lui présenter finalement ce qu'il avait envie de faire dès le départ. « Prends Marie pour femme. N'aie pas peur. Il n'y aura aucune conséquence vis-à-vis de la loi. Prends Marie pour femme. Il s'agit de la garder dans ta maison. Garde-la comme si elle t'était confiée. Garde-la comme si elle t'était confiée par Dieu et non par ses parents. » C'est comme si l'ange disait « Par ma voix, Dieu te confie, Marie. » Alors voilà Joseph qui commence à être un petit peu rassuré, certainement. Les tensions qu'il pouvait avoir sont réglées. C'est bon, je peux garder Marie chez moi. Dieu me la confie. Et je ne suis pas en porte-à-faux avec la loi. Mais le récit ne s'arrête pas là. L'ange va confier une mission à Joseph. Il va pleinement maintenant intégrer Joseph dans le plan de Dieu. Et il va lui confier un rôle très important. Et on lit au verset 21, « Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Et là, Chrysostome nous dit que c'est comme si l'ange disait à Joseph, « Ne t'imagine pas que parce qu'il est conçu du Saint-Esprit, tu n'as aucune part dans le ministère de cette nouvelle dispensation. Tu n'as pas participé à la conception. Tu n'as jamais touché la Vierge. Néanmoins, je te donne ce qui revient à un père. Je te donne l'honneur de donner un nom à celui qui doit naître. Toi, Joseph, tu lui donneras un nom. En effet, bien que l'enfant ne t'appartienne pas, tu es appelé à faire preuve à son égard de la sollicitude d'un père. C'est pourquoi en cette occasion, en ce moment où tu lui donnes un nom, tu te tiens dans une relation significative avec celui qui va naître. Marie mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Quelle révélation pour Joseph! C'est lui qui a la charge de nommer l'enfant à naître. Et ce n'est pas seulement choisir un prénom comme on le fait dans notre société maintenant, où on cherche un prénom qui est joli. À l'époque, on donnait un prénom parce que le prénom voulait dire quelque chose de la personne. Et Joseph, quand il a la charge de l'enfant à naître, finalement, en donnant le prénom de Jésus à ce bébé, Joseph annoncera le Messie, que le Messie est venu. Chaque fois qu'on lui demandera le nom de l'enfant, « Ah, comment il s'appelle, il est mignon !» Joseph sera comme un prophète qui annonce que le salut de Dieu est arrivé. Si Marie a eu le privilège de porter l'enfant, l'annonce de sa mission sur terre, c'est à Joseph qu'elle revient. Maintenant, le Messie est là. Il s'appelle Jésus. Il n'y a aucune ambiguïté. L'ange est très clair. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. D'ailleurs, Jésus veut dire sauver. Dieu sauve. Peut-être quelqu'un sait mieux que moi l'étymologie des noms. Mais c'est comme si l'ange le disait deux fois. Jésus, Dieu sauve, et puis c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis là, l'ange, il ne s'arrête pas ici. Il vient convoquer le prophète Ésaïe. Et il dit, tout cela arrive afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc pas ce que Ésaïe avait dit, mais le Seigneur, ce que Dieu a révélé à Ésaïe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Je ne sais pas si vous vient la même question qu'à moi à ce moment-là de l'histoire. C'est que l'ange, il demande à Matthieu, pardon, on reprend. L'ange demande à Joseph de lui donner le nom de Jésus. Et la phrase d'après, Ésaïe, il l'appelle Emmanuel. Moi, je n'ai jamais su quel prénom avait vraiment Jésus. Jusqu'à presque ce matin. Je ne sais pas si vous êtes posé la même question que moi. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appelle pas Emmanuel au lieu de Jésus? Parce que le texte, au fait, ne dit pas « vous appellerez », mais « on l'appellera Emmanuel ». Et là, notre ami Jean Chrysostome vient à notre secours et nous dit qu'Ésaïe, au fait, met ici l'événement comme un nom. Il dit même que c'est une pratique courante de l'Écriture qui consiste à substituer des noms aux événements réels. Ça veut dire que quand on dira « ils l'appelleront Emmanuel », ça ne signifie rien d'autre le fait qu'ils verront Dieu parmi nous. Dieu a toujours été parmi nous, mais jamais aussi ouvertement qu'à ce moment-là. Tout cela est arrivé pour accomplir ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Dieu a tenu parole. Il a envoyé le Sauveur du monde. L'événement à venir dépasse toutes les attentes humaines. De quoi le peuple est-il sauvé ? Non pas d'une guerre visible ou des barbares, ça c'était à l'époque de Chrysostome, mais de quelque chose de bien plus grand, de leur propre péché, ce qui n'avait jamais été possible à personne auparavant. Voilà la mission qu'a Joseph en nommant Jésus, annoncer au monde que le Messie est là. La fin du récit nous dit que Joseph a fait ce que l'ange lui a demandé. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit Marie chez lui. Il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils. Et il donna le nom de Jésus. Joseph est un homme qui prend Dieu au mot. Il ne semble pas avoir douté des paroles de l'ange. Versus Zacharie, si vous reprenez l'histoire de Jean-Baptiste. Comme quoi, ce n'est pas les religieux ou les ecclésiastiques qui sont le mieux placés. La foi de Joseph et son espérance dans les promesses à venir étaient fermes. Joseph était prêt à accueillir le Messie. et il l'a proclamé en lui donnant le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. Amen.